Bonjour et bienvenue dans ce 10-10 de la matinale de FM+. Ce matin encore, nous sommes dans le mois de soutien à l'économie sociale et solidaire. C'est Yann à la technique ce matin. Vous pouvez retrouver les podcasts des précédentes émissions sur cette thématique de l'ESS sur le site de la radio, dans la rubrique Actu et dans l'article consacré à ce mois de l'ESS. Donc le site de la radio, c'est radiofmplus.org tout simplement. On s'intéresse donc aux associations coopératives et mutuelles qui assurent bien des services de nos vies quotidiennes, qui emploient de nombreux salariés et qui sont aussi animés par des bénévoles dans les activités comme dans la gestion de ces entreprises, pas comme les autres. Aujourd'hui, on s'intéresse au secteur médico-social, ces établissements qui accueillent enfants et adultes en difficulté ou en situation de handicap. En France, le secteur associatif joue un rôle majeur dans le domaine médico-social. Selon les données récentes, les associations et fondations du secteur représentent environ 1,2 million de salariés et plus de 39 300 établissements employeurs. En termes de pourcentage, cela signifie que les associations et fondations constituent 58% des salariés et 25% des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Ces chiffres montrent l'importance et l'impact significatif des associations donc, dans ce secteur. J'ai rencontré en milieu de semaine Delphine Morel, la directrice générale de l'association ADPEP 34. Je vous propose de l'écouter. Delphine Morel, vous êtes directrice générale de l'ADPEP 34. Alors derrière ce sigle, qu'est-ce qui se cache ?
Alors l'ADPEP 34, c'est une association d'éducation populaire à la base, hein, qui existe depuis plus de 100 ans, puisqu'on a fêté les 100 ans de l'ADPEP 34. Donc comme son nom l'indique, c'est l'association des pupilles de l'enseignement public de l'Hérault et qui appartient plus globalement à une fédération nationale des PEP. Et la Fédération nationale des PEP regroupe comme ça plusieurs associations départementales qui vont avoir des projets tout à fait autonomes et dont, au cours du temps, les missions et les actions se sont développées de façon dissociée. Donc les PEP 34, tout particulièrement, alors ça c'est historique à l'éducation populaire, c'est surtout l'accompagnement des enfants, des pupilles de la nation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités périscolaires, aussi de centres de vacances et de loisirs. Et puis très rapidement, il y a eu beaucoup de maisons d'enfants à caractère social. Donc c'est le cas des PEP 34 qui depuis 10 ans, c'est une association qui a connu un développement assez important en élargissant son champ d'action et d'intervention sur le champ médico-social.
Alors avant peut-être de revenir sur le médico-social, vous avez parlé de loisirs des jeunes, des colonies, de vacances. Oui, on dit que c'est un secteur qui est très mal mené en ce moment.
Extrêmement mal menée, tout à fait, oui. Ben, de toute façon, les PEP 34, ces associations, c'est des associations extrêmement militantes hein, sur comment on agit pour œuvrer à une société commune et selon des fondamentaux quand même de la militance, de l'économie sociale et solidaire. Donc, en fait, déjà, elle ne s'inscrit pas forcément dans des champs économiquement très stables. Évidemment, c'est une association non lucrative, mais enfin, le champ, en tout cas, de l'éducation populaire et des colonies de vacances, aujourd'hui, est en extrême difficulté, ça on le sait. Maintenant, l'association, elle maintient. Nous avons un centre de vacances et de loisirs à Palavas. Donc là, on a une chance dans l'Hérault, c'est d'avoir un territoire qui reste attractif pour ce type de colonies. Et après, on a un autre centre qui est dans le nord du département, à Malibert, et qui a tout un projet sur la nature, le rapport à la nature, l'environnement, l'observation du ciel. Mais ça reste des économies. Enfin, c'est vraiment un souhait des administrateurs de tenir bon sur ces activités-là. Puisque oui, la tendance fait que la CAF a réduit, vous savez, c'est souvent des colonies où il y a une grande mixité sociale et les personnes qui sont éligibles à des aides par la CAF ont des financements pour pouvoir participer à ces colonies de vacances. Bon, les moyens diminuent. Il y a beaucoup aussi de classes vertes par les écoles. Donc ça, c'est vraiment c'est la grosse partie de l'activité de nos jours. Et là aussi, actuellement, les mairies diminuent aussi leur financement de déplacements et de voyages et de vacances communes des écoles.
Vous avez parlé de mixité sociale. Justement, c'est un point très très fort, ça. On manque de plus en plus de liens de mixité sociale. La société nous enferme un peu dans des bulles. Comment alerter le fait qu'il ne faut pas que ça disparaisse? Au contraire, il faudrait même que peut-être ça se développe.
Ah bah nous, on a la conviction qu'il faut que ça se développe, puisque c'est, je suis tout à fait d'accord, c'est un des rares espaces encore où il y a de la mixité, comme encore de nos jours aussi, quand même, l'école publique, c'est un endroit de mixité, et effectivement, c'est un terreau, quand même, de la société à venir. Donc, je pense que le mouvement des PEP contribue vraiment à cette action-là, de permettre à une génération d'enfants de se côtoyer. Aujourd'hui, sans financement public, je pense que c'est une gageure. Alors, évidemment, il y a l'importance du projet de centre de loisirs, c'est important aussi de savoir sur quelle valeur on se base, qu'est-ce qu'on propose comme activité pour avoir une attractivité, hein, parce que c'est normal, les parents vont regarder à quel endroit ils désirent inscrire leurs enfants, donc cette exigence-là, elle doit être au rendez-vous, sinon c'est normal que ça ne fonctionne pas. Mais en ce qui concerne les deux centres de loisirs des PEP 34, je crois qu'elle y est vraiment, et le projet est très structuré. Mais s'il n'y a plus d'aide de la CAF, et si les municipalités ne financent plus des voyages pour les élèves de, en général, primaire, ça permet pas d'équilibrer les activités, sachant que forcément, vous doutez bien que les masses salariales sont importantes, parce que il faut des animateurs, et aussi c'est souvent des structures où il y a du foncier aussi qui est historique, avec des bâtiments à la montagne, au bord de mer, ça nécessite beaucoup d'entretien. Donc l'économie elle-même, l'équilibre économique, il est assez complexe, et c'est tout le travail qu'on mène de visibilité, de dynamisme, et puis aussi d'essayer de trouver d'équilibrer au mieux les charges.
Vous avez dit que vous étiez une association départementale, et donc ce genre de centre de loisirs, est-ce qu'il est aussi ouvert à d'autres départements? Enfin, est-ce que vous faites aussi des partenaires? Vous êtes en réseau en quelque sorte?
Ah oui, mais totalement. En fait, même il y a, j'ai pas les chiffres précis, mais il y a autant d'enfants qui viennent du département ou de la région ou hors région. C'est l'intérêt aussi de la Fédération nationale. Il y a carrément une sorte de commercialisation mutualisée où ils appellent ça des placements de séjour, et donc c'est une AD du 21 peut contacter notre centre pour dire il y a tel groupe scolaire ou tel enfant, alors plutôt sur les groupes scolaires, hein, c'est plutôt ces échanges sur les groupes scolaires, c'est un peu plus comme ça. Et aussi sur Palavas, il y a aussi carrément d'autres organisateurs de colonies qui nous sollicitent pour occuper notre espace. Donc évidemment, c'est totalement mutualisé, enfin c'est totalement partagé en réseau partenarial. Et d'ailleurs, globalement, le taux d'activité, c'est rempli, en fait. Enfin, alors, évidemment, c'est rempli sur une saisonnalité qui va aller d'octobre à avril. Encore que à Palavas, ça peut. Alors que en montagne, évidemment, la saisonnalité est un peu plus étroite. Et c'est aussi une des difficultés. C'est l'équilibre global, mais sinon, c'est très, très actif, en fait. Il y a vraiment. Alors, l'Hérault a une chance d'être quand même un territoire du tourisme attractif.
J'allais dire, en ce mois de novembre, très ensoleillé, il pourrait y avoir des classes.
Ah oui, il y en a tout à fait. Ça s'arrête vraiment en décembre et ça reprend en février sur les classes. Oui. Oui, il y en a toute l'année, mais il n'en demeure pas moins que l'équilibre budgétaire reste complexe, même dans un contexte où l'activité est quand même soutenue. Alors, évidemment, parce que la mer va plus que la montagne, et c'est l'intérêt de l'équilibre global. Et c'est l'intérêt aussi d'être porté par une association qui a su aussi développer son champ d'activité pour ne pas être que restreint à l'activité de centre de loisirs. Et ça permet de s'étoffer un petit peu et d'être organisé en siège avec des fonctions support. C'est toute une organisation. En fait, il faut savoir que globalement, mais c'est le cas, je pense que vous le savez mieux que moi, de l'économie sociale et solidaire, mais du secteur social et médico-social, c'est des secteurs qui sont aujourd'hui très structurés, qui ont une logique gestionnaire et d'équilibre économique forte. Pour défendre les valeurs de la militance, c'est-à-dire qu'essayer aussi de trouver leur équilibre financier dans un contexte de restriction des finances publiques.
Alors en ce moment, ce contexte, il est très marqué. On est en plein débat sur le projet de loi de finances, des inquiétudes sur l'avenir. Enfin, parce qu'à un moment donné, vous dites, on fait d'énormes efforts pour tendre à l'équilibre, mais s'il y avait des restrictions très fortes, bon, on sait que les départements sont sous pression, on sait que le budget national va l'être également. Est-ce que vous êtes inquiète de l'avenir?
Oui, on est inquiet. Alors, on n'est pas trop inquiet sur l'importance de nos missions. En fait, on est sur un double mouvement contradictoire, c'est-à-dire que les missions qu'on porte, je pense qu'elles sont de plus en plus. les besoins sont vastes et sont plutôt en développement. Maintenant, il y a un modèle économique d'un système qui est mis en difficulté, pas spécifiquement sur notre association, mais sur le contexte général. D'ailleurs, il suffit de regarder au niveau national des fédérations comme l'APF ou la Croix-Rouge. On sait aujourd'hui qu'il y a des licenciements quand même qui s'opèrent. Et c'est vrai que c'est une question profondément politique de savoir quel modèle on veut, quel modèle de solidarité, parce que par principe, ça reste des modèles qui doivent être financés par des financements publics, même si il s'avère que des entreprises privées commencent à investir ce secteur-là, alors sur un modèle économique qui, à mon avis, est un peu plus contestable, mais en même temps, je connais le modèle économique auquel j'appartiens et qui est sur des bases de bienveillance, de solidarité, de qualité de vie au travail, d'éthique de l'accompagnement. Donc tout ça, cette exigence-là, elle a un coût. Après, en ce qui concerne l'Hérault, c'est sûr que la situation d'une collectivité comme le département va avoir un impact fort, puisque le département finance quand même toutes les dépenses sociales, notamment les maisons d'enfants à caractère social. Et donc ça, on sait que la protection de l'enfance aussi, les besoins sont en développement. Donc il y a de plus en plus grand et de plus en plus important. Et il reste certain que pour une collectivité, c'est aussi pas si simple à absorber.
Alors, on vient là sur les maisons à caractère social, les maisons qui pour les enfants. Aujourd'hui, la PEP 34, on a un certain nombre en gestion, si je puis dire, en tout cas dans son portefeuille. C'était une évolution qui n'était pas forcément celle des autres PEP. C'est un choix un peu particulier lié à l'histoire du médico-social dans le département.
Alors, sur les maisons à caractère social, c'est plutôt une histoire commune au PEP, puisqu'en fait, les pupilles de l'enseignement public, c'est s'occuper des pupilles de l'État. Donc, évidemment, historiquement, les pupilles de guerre, mais par extension, assez rapidement, la DPEP 34 a en gestion une MEX à 7, et elle existe depuis j'ai pas la date exacte, à vrai dire, mais depuis le début de la DPEP 34. Puis, il y a une dizaine d'années, il y a une autre MEX, alors là, pour le coup, ça a été un choix de développement, qui a été créé sur le territoire clermontais, à Clermont-l'Hérault. Et chacune de ces deux structures, au départ, c'était ce qu'on peut considérer, surtout les mariniers à 7, une structure d'internat un peu classique. Ce qui évolue, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus sur de l'internat classique. C'est des missions qui ont énormément évolué sur de l'accompagnement à domicile ou de l'accompagnement séquentiel. En tout cas, la vision qu'on peut avoir de l'internat à 100%, qui existe encore, est une partie de la mission. Et la mission est beaucoup plus large que celle-ci.
Alors, rappelez-nous un peu le panorama, parce qu'effectivement, maison d'enfants à caractère social, c'est des publics qui sont placés par le conseil départemental, mais il y a aussi, à l'autre bout, j'allais dire, les enfants qui sont placés par le ministère de la Justice. C'est des établissements différents. Planter un peu le paysage.
Alors moi, je ne peux pas vraiment vous répondre sur le ministère de la Justice, parce que ce n'est pas le cœur de notre travail. Nous, on est vraiment sur les enfants effectivement placés, ou alors aussi sur des enfants qui sont accompagnés en contrat avec les familles. Ce n'est pas forcément... Évidemment, la majeure partie, c'est des enfants qui bénéficient d'un placement au titre de la protection de l'enfance. Donc, c'est des missions d'une extrême noblesse, parce que c'est aussi comment on permet aussi à un enfant d'être protégé, de se restaurer, de se reconsolider, en fait, son parcours, et de aussi retravailler la relation de la fratrie, de la relation avec les parents, avec les frères et sœurs. Donc, il y a toutes ces dimensions-là. Cette protection, elle ne s'entend pas que dans le sens de la séparation, elle s'entend aussi dans le sens de la reconsolidation, et c'est aujourd'hui, c'est quand même un axe important quand c'est possible. Évidemment, il y a des sujets plus sensibles où non, c'est plutôt l'éloignement qui va être travaillé. Donc il y a des équipes éducatives qui sont vraiment extrêmement compétentes et dans une grande délicatesse, en fait, d'accompagnement, pour essayer la maison d'enfants à caractère social, elle a cette caractéristique de travailler un peu quand même sur du moyen, de la durée moyenne. Et donc l'accompagnement des enfants peut se faire pour certains d'un âge très jeune jusqu'à la majorité. Il y a aussi toutes les mesures d'accompagnement des jeunes majeurs. C'est aussi des mesures qui sont mises en difficulté, évidemment, parce qu'elles peuvent être perçues comme moins prioritaires dans un contexte de restriction des dépenses publiques, alors que un enfant qui a été accompagné jusqu'à 18 ans, on se doute bien que, comme tout autre enfant, l'adulte n'est pas, tout n'est pas établi à 18 ans, et donc l'accompagnement reste très nécessaire. Il y a aussi tout ce qui est l'accompagnement des jeunes migrants, hein, parce que par principe, en France, un enfant, quelle que soit sa nationalité, et c'est aussi la noblesse de cette mission-là, un enfant n'a pas à être, à vivre dans la rue ou ne être sans abri. Et donc, c'est toute la beauté de cette mission-là.
Et notre département, de ce point de vue, attire plus, enfin en tout cas, on a plus de jeunes mineurs non accompagnés.
Bah, on est sur le bassin méditerranéen, donc on sait que la Méditerranée est la mer la plus, enfin en tout cas qui est plus porteuse malheureusement de ces migrations et des migrations qui sont très difficiles. Et historiquement, il y a 15-20 ans, souvent c'était très minoritaire et c'était des filières très organisées d'enfants qui étaient envoyés pour essayer de s'implanter dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est beaucoup, oui évidemment, c'est beaucoup plus massif. J'ai pas là les chiffres comme ça parce que je les ai pas, mais oui, et effectivement, c'est aussi lourd à porter pour une collectivité territoriale de répondre à cette demande-là. Donc tout le sud de la France, alors évidemment Marseille, c'est un territoire qui est beaucoup plus impacté que l'Hérault, mais enfin Montpellier et l'Hérault, oui, c'est une évolution très forte dans les missions.
Delphine Morel, on revient sur les différentes missions de la DPEP 34. On a parlé de l'accueil dans les MEX, mais bien évidemment, il n'y a pas que ça. On a parlé des colonies de vacances. En fait, vous avez différentes missions, j'allais dire presque différents métiers.
Oui, c'est ce qui caractérise cette association, c'est de s'être construit historiquement, progressivement, en développant plusieurs champs d'activité. Donc bon, les MECS et tout le secteur de l'animation qu'on a abordé au début de notre échange. Et depuis 10 ans, il y a eu un développement par le la fusion avec d'autres associations sur le champ du médico-social et avec des établissements qui vont relever vraiment plutôt du secteur du handicap enfants et adultes, puisqu'il y a l'IES PIC-CESDA dans le quartier de Boutonnet au centre de Montpellier pour accompagner les enfants malentendants et sourds et malentendants. Il y a une MAS et un IME, donc ça c'est pour les enfants en situation de handicap en déficience qui est sur le territoire de Saint-André-Sangonis, et deux ESAT, ce qu'on appelle le dispositif ESAT à Montpellier, dont les ESAT La Bulbe et les ESAT Atelier Kennedy, avec une particularité dans l'ensemble de ces établissements, mais sans doute plus, évidemment plus prononcée avec La Bulbe, c'est qu'il y a une forte volonté de pratique artistique au sein de chaque structure. Donc c'est aussi ce qui un peu donne la coloration de cette association-là, en cohérence avec les valeurs de l'éducation populaire, puisque ces valeurs-là, s'adossent sur des principes très forts d'émancipation du citoyen, enfin d'émancipation de la personne, de travail, en fait, effectivement, de la démocratie par l'accompagnement du citoyen, sur des valeurs de solidarité, de laïcité, c'est une dominante importante, et plus globalement, du respect de la personne accompagnée dans son intégrité et aussi dans son autonomie, même pour un enfant mineur, d'arriver à travailler avec la personne elle-même. Donc ça, c'est ce qui nous regroupe. Et donc, effectivement, on est sur plusieurs champs d'activité, ce qui nécessite en fait d'avoir développé des pratiques de fonctionnement différentes avec différents métiers. Donc évidemment, il y a essentiellement les métiers de l'éducation spécialisée, mais il va y avoir aussi tout ce qui est paramédical, beaucoup de psychologues, d'ergo, d'ASH, mais aussi, par exemple, des enseignants spécialisés. Notamment toute la langue des signes, hein, ça c'est aussi toute une culture et une pratique qui va se retrouver, et le champ de l'animation. Donc ça fait en tout cas une diversité, puisque c'est 500 salariés environ, à peu près 500 salariés, donc avec une grande diversité d'approches et de cultures professionnelles.
Et aujourd'hui, un large spectre d'accueil, puisque vous accueillez des très jeunes, mais au travers des ESAT, vous avez des adultes qui sont là, peut-être sur la durée de leur vie professionnelle.
Oui, tout à fait. On accueille effectivement de la naissance pour certains accueils sur les MEX jusqu'à, effectivement... l'âge de la retraite, ou même en masse, ça peut être aussi un accueil d'un adulte très prolongé. Alors, le champ qui n'est pas investi par les PEP 34, c'est qu'on n'a pas d'EHPAD, quoi. Donc, ça, on ne travaille pas sur le grand âge.
Et c'est un manque, enfin, en tout cas, comment ça va se passer pour des personnes qui ont été en ESAT toute leur vie, qui avaient donc leur famille qui les accompagnait, des familles qui disparaissent, des moments de solitude peut-être, non ?
Ah, mais ça, c'est pas du tout travaillé au moment du décès de la famille, parce que c'est effectivement c'est assez inéluctable, mais c'est travaillé dès l'admission. C'est, en fait, nos missions, les missions du secteur médico-social et du social, c'est vraiment, ça, tout le monde en entend parler dans l'actualité, mais la dimension inclusive, elle est très très forte et elle est très très soutenue au PEP 34. Et donc, un travailleur qui va être rejoint de l'ESAT ou un adulte qui est accompagné à la masse, la question de l'inclusivité, elle va être travaillée, évidemment, de façon proportionnée à l'autonomie de la personne. Et en tout cas, le détachement progressif de la famille pour considérer l'adulte dans toute son autonomie en tant que acteur vraiment et pouvoir d'agir de son propre parcours. Et donc, si l'ESAT va travailler sur la dimension professionnelle, on va tout de suite travailler aussi la question du logement, la question de l'autonomie financière. Et en général, si c'est bien fait, quand la personne arrive à... Alors, il y a beaucoup de travailleurs d'ESAT qui vont avoir d'autres orientations professionnelles avant l'âge de la retraite. Mais pour ceux qui arrivent à l'âge de la retraite, en général, ils sont autonomes sur leur logement. Alors, il est coutume de dire, mais c'est un peu une vue... Mais c'est vrai, hein, qu'en fait, souvent... La question de la notification du handicap disparaît avec l'âge de la retraite, puisque quand on est orienté sur un EHPAD, il n'y a plus la question. Finalement, toute personne en EHPAD a un handicap, et donc ça serait un peu dommage que l'inclusion arrive qu'à ce moment-là. Mais en tout cas, normalement, c'est de droit commun quand même. Alors maintenant, il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement plus spécifiques pour les personnes en situation de handicap, parce que bien entendu, ce n'est pas tout à fait la même façon d'accompagner les personnes.
Revenons un peu sur l'ESAT La Bulbe Bleue, qui est, c'est pas le bateau amiral, mais en tout cas, c'est un joli drapeau de votre association. La culture aussi agit, promue par des travailleurs handicapés, des personnes en situation de handicap.
Oui, donc la Bulle Bleue, c'est un, ce qu'on appelle un ESAT artistique qui a été créé il y a maintenant 14 ans et porté très, très activement par l'association. Et là encore, ben, voilà, l'éducation populaire, ces valeurs-là, elles vont venir en cohérence. Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est un petit peu, en tout cas, le bateau amiral, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est une forme d'exemplarité de ce qui peut être fait et de visibilité, puisque aujourd'hui, c'est une compagnie en fait, qui regroupe... au sens large, 46 professionnels en situation de handicap, dont 16 comédiens qui sont professionnels et qui travaillent à temps plein en tant que comédiens. Ils viennent de créer la semaine dernière, dans le cadre du Festival de la Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée, la dernière création qui va partir en tournée sur plusieurs scènes nationales au niveau national. Donc oui, c'est une satisfaction et c'est vrai que c'est très symbolique de ce qui est désiré sur cette association-là.
Alors, vous êtes directrice générale, vous êtes travailleur social. Comment vous regardez un peu le monde d'aujourd'hui, le monde post-Covid, ce qui s'est passé, en quoi les relations ont changé entre les individus au moment du Covid? On a l'impression aujourd'hui de beaucoup de solitude.
Alors, quand j'échange avec les salariés ou avec des représentants des salariés, ou quand je vois, effectivement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de solitude, mais c'est vrai qu'il y a sans doute une crise morale. C'est peut-être pas le... En tout cas, il y a une baisse de morale. Globalement, c'est possible. C'est vrai que tout le monde le dit. Donc, c'est pas propre à ce secteur-là. Hein. Je pense qu'il y a, on dit souvent, une quête de sens, une recherche du sens. Alors, je sais pas si... Des fois, malheureusement, j'ai l'impression que le Covid est déjà un peu loin. C'est plutôt la crise par répercussion, puisque là, aujourd'hui, il y a une crise géopolitique, il y a une menace de guerre, il y a une crise économique. Donc, c'est un contexte qui est pas simple, sans doute, pour des professionnels qui se sont engagés toute leur vie, engagés leur vie professionnelle sur des valeurs d'inclusion, des valeurs de solidarité, des valeurs de commun, des valeurs de un peu de résistance. Alors, moi, je peux parler à titre personnel, mais chacun voit ça à sa façon. Mais pour ma part, c'est plutôt moi un souffle d'énergie de me dire que je travaille dans un endroit où, justement, il y a encore une résistance possible et une action politique possible pour contribuer à une société, en tout cas, de partage, de respect, de commun et de coopération. Et je crois quand même que ça réunit quand même l'ensemble des salariés. Il y a quand même ce sens-là. C'est difficile, le contexte est très difficile. On ne sait pas, les financements publics, c'est vraiment, ça nous met en tension, mais je pense qu'on reste encore dans un endroit où il y a beaucoup de sens à travailler.
Et peut-être pour conclure cet entretien, voilà, on est à Montpellier, souvent le ciel est bleu, mais bon, est-ce que on coopère à Montpellier aussi bien qu'on devrait sur toutes ces questions-là entre acteurs? Est-ce qu'il y a une forme de solidarité? Est-ce qu'il y a au fond un écosystème, c'est un peu le terme qu'on emploie aujourd'hui, autour de tous ces cette nécessité d'inclusion?
C'est une vaste question. Y répondre comme ça, je prendrais vraiment le risque d'être un peu schématique. Il y a énormément de partenariats de pair à pair. Hein. Si on prend le dispositif ESAT, sur le territoire qui est situé sur le territoire du Mâcon-Cunet, il y a toute une envie de créer un PTCE.
Un PTCE. Qu'est-ce qu'un PTCE?
Un plan territorial de coopération économique. Donc ça, c'est vraiment des outils très, très économie sociale et solidaire, avec quand même des impulsions, des financements pour apprendre à coopérer. Donc en fait, si on regarde sur chaque territoire, moi, je dirais que les coopérations, elles se font de façon opérationnelle. En fait, le partenariat, il peut exister sur des grands principes, mais on voit bien que ce qui fonctionne, c'est quand vraiment sur un territoire, on va défendre un projet commun. Quand je vois la Bulle Bleue que vous citiez, qui travaille en coopération avec l'ensemble des théâtres du territoire, il y a de la coopération là. Sinon, c'est bien qu'à un moment donné, il y a une écoute commune, il y a un regard, on accepte un regard décalé, il y a des façons de pratiquer différentes et on les met en commun. Donc oui. Si je regarde chaque établissement, puisqu'il y a 5 dispositifs sur les PEP 34, tous sont en partenariat et évidemment en coopération. Après, la question de la mutualisation des moyens, c'est un autre sujet. C'est sûr que c'est complexe parce qu'il y a des questions après, ben, évidemment, d'arbitrage, de choix. Ça aussi, ça passe aussi par là. Il faut savoir que les PEP 34, sur un champ plus élargi, appartient à une association régionale des PEP, ça s'appelle l'ARPEP. Et donc là aussi, il y a de la mise en commun pour essayer d'inventer un peu ensemble et on parle beaucoup de la transformation de l'offre, en fait. J'ai beaucoup parlé de l'offre, mais en fait, on est en réflexion permanente au niveau des directions, des équipes de direction et de l'ensemble des équipes, en fait, sur comment on transforme notre offre. Et l'offre médico-sociale et sociale d'aujourd'hui n'est pas du tout celle d'il y a 10 ans et ne sera certainement pas celle de dans 10 ans. Et la question de l'inclusion, puisque c'était votre question... Je dirais qu'aujourd'hui, le champ qui est encore difficile et le nœud qui est encore complexe, c'est ce qu'on appelle, nous, le milieu non protégé ou le milieu ordinaire. Et comment, finalement, on coopère beaucoup entre acteurs de ce secteur-là, mais comment on arrive à associer le plus grand nombre et comment, en fait, la place de la personne différente ou vulnérable, elle va avoir toute sa part. On le sait, on connaît le débat pour les écoles, mais c'est pareil pour une entreprise, c'est dans un lieu de spectacle. Donc comment on arrive un petit peu à accepter le décalage qui...
C'est du aller vers les personnes qu'il faut développer
Non, c'est plutôt permettre aux personnes de venir vers, je dirais, de non, aller vers, il y a toujours quelque chose qui est toujours très volontaire, mais déjà d'ouvrir en fait. Alors moi, je connais mieux la question professionnelle des entreprises, mais c'est encore très difficile pour une entreprise de tenter le coup d'un salarié en situation de handicap qui serait accompagné par un ESAT. Il y en a. Mais ça reste quand même très résiduel.
Eh bien, Delphine Morel, merci. Merci de votre engagement. On sent beaucoup d'optimisme chez vous, en tout cas de volontarisme.
Oui, plutôt du volontarisme, mais aussi de l'optimisme.
Merci. Voilà, nous étions avec Delphine Morel de l'ADPEP 34 sur ce secteur du médico-social dans le département. Il y a aussi d'autres associations importantes qui gèrent d'autres établissements. Je citerai, sans les citer toutes d'ailleurs, je citerai l'ADAPI et entre autres l'ADAGE. Je reviens en quelques chiffres, puisqu'il nous reste quelques secondes, sur ce secteur de l'économie sociale qui est une économie réelle de proximité multisectorielle, comme on peut le voir au travers de nos différentes émissions. Je rappellerai quelques chiffres globaux en France. L'ESS, c'est 2,6 millions d'emplois, c'est 220 000 établissements employeurs. 67% des emplois occupés dans ces 2,6 millions sont occupés par des femmes, 67% donc. Un emploi sur sept, c'est du secteur privé, c'est 152 000 entreprises employeurs et c'est globalement dans l'économie un emploi sur 10, 10% des emplois en France, c'est donc un secteur tout à fait négligeable, tout à fait non négligeable, ça c'est terrible de dire ça, un secteur tout à fait non négligeable, tout à fait important, qu'il faut soutenir et que le projet de loi de finances pourrait largement malmener. Voilà, on est au terme de cette émission, merci pour votre attention. Aujourd'hui c'était Yann à la technique ce matin, vous pouvez retrouver le podcast de ce 10-10 ainsi que tous les autres sur le site de la radio, radiofmplus.org, un site qui a été rénové récemment et qui est encore un peu en cours de rodage, avec donc parfois quelques incomplétudes, mais tout s'améliore jour après jour. On se retrouve donc pour un prochain 10-10 dès demain matin. Excellente journée à tous.